Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Avoir froid, si possible, avec une lumière tamisée et avec un col roulé, ce sera un acte citoyen cet hiver. Le gouvernement dévoile demain son plan de sobriété européen. Vous en dévoile les grandes lignes dès ce soir. Rien de contraignant, vous allez l'entendre dans le journal. Nous en parlerons plus en détail avec nos commentateurs. Ce soir, l'ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe, la politologue Anne-Charlène Bézina et l'essayiste et dirigeant d'entreprise Alexis Karklins Marchais. Mais avant l'information, le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Et nous revenons donc en détail sur ce plan de sobriété énergétique. Objectif, diminuer notre consommation de 10% par rapport à 2019.
L'État devra être exemplaire. Les entreprises et nous les particuliers seront également mis à contribution. Dur de faire le plein des problèmes d'approvisionnement dans 12% des stations-service en France et notamment celle de Total Énergie. Dans ce journal, l'évacuation d'un campement de fumeur de crack à Paris. Gérald Darmanin est sur place ce soir. Le foot, Benfica, Lisbonne, PSG. Et puis le parcours du marathon olympique de Paris 2024. Difficile et symbolique, mais aussi ouvert au grand public.
Allez, la tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Alors du soleil majoritaire demain après-midi qui s'accompagnera d'une baisse des températures maximales. Oh, elles vont quand même rester au-dessus des moyennes saisonnières. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. C'est demain après-midi que le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique, mais dès ce soir, Europe 1 vous en dévoile les grandes lignes.
Il s'agit, rappelons-le, d'éviter à tout prix les coupures de gaz ou d'électricité cet hiver dans un contexte de crise internationale. Pas le choix, nous devrons donc tous faire un effort cet hiver. Et c'est l'État qui montrera l'exemple, Baptiste Morin.
Oui, l'État devra être exemplaire. C'est ce que nous pouvons lire dans un document de travail que nous avons consulté. Document qui peut encore évoluer, mais qui donne les grandes lignes de ce plan. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. Il n'y aura plus d'eau chaude dans ces bâtiments, hormis pour les douches. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics, dans leurs déplacements professionnels. Les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Leurs voyages en avion devront être remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Et puis enfin, ces agents de l'État seront incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10% cet hiver.
Alors voilà pour l'État et pour les entreprises et les établissements recevant du public. Que prévoit ce plan, Baptiste ?
Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'un degré. Les domaines de ski vont s'adapter avec une vitesse adaptée des télésièges à la fréquentation et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres.
Et puis pas d'obligation pour nous, les particuliers, mais plutôt des conseils.
Et un slogan, je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, par exemple, a débuté au 1er novembre au lieu du 15 octobre et l'arrêter au 1er avril plutôt qu'au 15 du mois. Le gouvernement parle d'une baisse de 12% de la consommation. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille, il pourrait être demandé aux acteurs du secteur de travailler sur un paramétrage des box internet et décodeurs télé pour qu'ils se mettent en veille en cas de non-utilisation. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres, ainsi que la température du chauffe-eau à 55 degrés. Autre mesure évoquée par le ministère de la Transition énergétique, inciter au covoiturage avec un bonus de 100 euros pour chaque nouvel inscrit sur une plateforme de covoiturage. Ce sera à partir du 1er janvier 2023.
On retient donc ce slogan, Baptiste, je baisse, j'éteins et je décale. Demain, 9 ministres vont présenter pendant 3 heures les détails de ce plan. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les collectivités locales en difficulté à cause des prix de l'énergie, mais aussi de l'alimentation, pourront demander un acompte sur l'aide de l'État prévue pour compenser l'augmentation de leurs dépenses.
Si vous devez faire le plein, attention, vous risquez d'être contraint à la sobriété ou à la marche à pied.
Et oui, certaines stations-service sont en effet à sec. Pas de pénurie, précise bien le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, mais il reconnaît des tensions. Selon lui, 12% des stations françaises ont des difficultés, au moins pour un type de carburant, les Hauts-de-France étant les plus touchés, avec environ 30% des stations. Ces difficultés, elles sont particulièrement sensibles chez Total Energy, victime à la fois de la grève dans ses raffineries et de son bonus de 20 centimes à la pompe. Reportage dans une station prise d'assaut à Paris, Louise Douillet.
Vous avez fait beaucoup de stations avant de trouver celle-ci ?
8.
Pour pouvoir rentrer chez elle au volant de sa Clio rouge, Pauline n'a pas le choix, elle doit faire le plein.
J'avais peur de ne pas pouvoir récupérer l'essence, du coup je me suis arrêtée, je suis venue là à pied pour récupérer 3 litres avec des bidons. Et là du coup j'ai fait le reste de la route, j'arrive sur la réserve.
Dans la file des dizaines de voitures, des automobilistes qui klaxonnent, soufflent et des professionnels comme Mohamed qui s'impatientent au volant de leurs utilitaires.
Ça fait au moins 30 minutes, je suis bloqué, sans même pas 100 mètres, juste pour mettre le plein. C'est vraiment le bordel, je travaille dans la fibre, je me déplace souvent chez les clients, etc. Donc sans carburant, je peux plus travailler.
Renaud a lui tellement tourné à moto dans Paris qu'il a atteint la réserve.
Et j'ai de la chance d'être en deux roues, j'ai pris tous les trottoirs pour me glisser dans la file. Je n'ai pas regardé le prix, je dois aller chercher ma fille, je suis déjà en retard.
La file de voitures s'allonge maintenant sur 2 km, pas sûr que tout le monde puisse avoir du carburant avant ce soir.
Reportage de Louise Douillet. Près de la moitié des stations Total Énergie en Île-de-France n'ont ce soir plus de carburant. Sur leur site internet, vous trouverez une carte interactive avec les stations approvisionnées ou pas.
Pour ceux qui préfèrent le train, la SNCF ouvrait la vente ce matin pour la période des fêtes de fin d'année.
Précisément pour la période du 9 décembre au 2 janvier. Et la ruée sur le site et l'application a commencé dès 6h, Barthélémy Philippe.
Et oui, dès l'aube, des milliers d'usagers se sont jetés sur les 9 millions de billets ouverts à la réservation afin de bénéficier des meilleurs prix. Les chiffres avancés par la SNCF donnent le tournis. Entre 6h et 8h du matin, il s'est vendu plus de 30 billets par seconde, de quoi remplir 3 TGV par minute. Pris d'assaut, les compteurs du site et de l'appli SNCF Connect ont rencontré une affluence record, jusqu'à 100 000 connexions par minute. C'est 10 fois plus que lors de l'ouverture des réservations à la même époque l'an dernier. Si certains voyageurs lèvent tôt se sont plaints de bugs, la SNCF assure de son côté que les ventes n'ont jamais été interrompues. La compagnie reconnaît toutefois des délais d'accès plus longs que d'habitude, jusqu'à 5 minutes pour certains clients. Ces derniers ont été invités à patienter dans ce que la SNCF appelle une salle d'attente virtuelle mise en place pour l'occasion.
La SNCF qui réfléchit à augmenter ses tarifs pour 2023. Face à la hausse des prix de l'énergie, une décision sera prise dans les prochaines semaines.
Cela faisait un an que le campement du square Forceval dans le nord-est de Paris était le rendez-vous des fumeurs de crack. Le camp a été évacué ce matin.
Oui, par un millier de policiers et de gendarmes. Gérald Darmanin est sur place. Ce soir, l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de donner des précisions sur cette expulsion.
Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière, une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police pour diverses raisons, mais aussi des personnes très, très vulnérables, notamment on pense à des femmes seules, parfois exploitées, sous emprise. J'ai demandé aux milliers de policiers et gendarmes que j'ai mobilisés sur cette opération de rester jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité pour éradiquer ce village du crack qui doit se reconstituer ni à Paris ni dans les villes de sa banlieue bien évidemment.
Gérald Darmanin au micro de Nina Droff qui a également rencontré des riverains entre soulagement et inquiétude sur l'avenir.
Bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Les riverains vont pouvoir souffler. Ils ont eu la peur du quotidien en traversant par cette porte de la Villette. Maintenant, ça va pouvoir être beaucoup plus sympathique, fluide.
On est soulagés. Les gens du 93 et les gens du 19e sont soulagés. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je pense qu'ils reviendront. Ça va se déplacer à un certain moment à Stalingrad et ils reviendront.
C'est évident qu'on a peur que ça se reforme. Là, on voit plein de toxicomanes errer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle prise en charge? Il n'y a rien de prévu pour ces gens-là. Puis lundi, les dealers étaient déjà au courant qu'il y aurait une opération aujourd'hui. Donc, ils ont pris leur disposition. Donc, les dealers sont toujours dans la nature.
Des habitants du secteur du square Forceval évacués ce matin. À Rennes, ce sont 121 migrants vivant dans des campements de fortune qui ont été évacués par la police. Les réquisitions au procès de la collision de Mias dans les Pyrénées-Orientales en 2017. 6 enfants avaient trouvé la mort. 5 ans de prison requis contre la conductrice du car scolaire, dont 4 avec sursis. Sa défense a plaidé la relaxe. Jugement le 18 novembre.
On marque une pause sur Europe 1 dans un instant. La mort d'une jeune passagère de 18 ans après le refus d'obtempérer d'un conducteur à Grenoble, un homme déjà condamné pour des tirs sur les forces de l'ordre. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Nouvelle affaire de refus d'obtempérer qui tourne au drame. La passagère de la voiture, une jeune fille de 18 ans, a été tuée.
Oui, ça s'est passé la nuit dernière à Grenoble. Les trois policiers sont entendus sous le régime de la garde à vue. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place. Le conducteur est lui aussi en garde à vue. Il a tiré à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre.
Oui, la course-poursuite s'est engagée juste après le refus d'obtempérer du conducteur qui, très rapidement, a fait feu sur les policiers tout en conduisant. Les fonctionnaires ont d'abord gardé leur distance avant de bloquer la Renault Mégane du conducteur dans une impasse. Celui-ci a alors fait demi-tour et a foncé sur les policiers qui ont tiré à leur tour en direction du véhicule. L'homme a fini par être interpellé, mais la passagère, une jeune femme de 18 ans, a été retrouvée morte, une balle dans le cou, pas forcément tirée par les policiers d'ailleurs, estime Yannick Biancheri du syndicat Alliance Police Nationale.
C'est un peu facile de dire tir de policier, une personne décédée. Alors ça peut, mais il n'y a pas que cette hypothèse. Donc la personne, je vous rappelle, a tiré à plusieurs reprises. Et quand on voit que cet individu a fait déjà 8 ans de prison pour des tentatives d'homicide sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, donc sur des policiers, il recommence, donc très très peu fréquentable. C'est un voyou, on peut le dire. L'enquête déterminera à quel niveau il a été et qu'est-ce qu'il a fait et surtout prouvera sa tentative d'homicide vis-à-vis de mes collègues.
Un homme de 30 ans, marocain, originaire du Vaucluse, connu là-bas dans le milieu du trafic de stupéfiants. Il faisait d'ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de 2019, d'où probablement sa volonté de ne pas être contrôlé cette nuit dans les rues de Grenoble. D'autant qu'il était également recherché par les policiers de Bourgoin-Jallieu, toujours en Isère, pour s'être promené en début d'année dans les rues de la ville avec un revolver Magnum approvisionné et un fusil d'assaut.
Jean-Luc Boujon, vous êtes à Grenoble pour Europe 1. Cette scène marquante au Parlement européen, une eurodéputée suédoise d'origine irakienne s'est coupée les cheveux pour soutenir la lutte des femmes iraniennes. Tant que l'Iran ne sera pas libre, a-t-elle dit, notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs. Ici en France, plusieurs artistes font ce même geste dans une vidéo. Juliette Binoche, Julie Gayet, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg ou encore la chanteuse Angèle. Vous vous souvenez sans doute du tir mortel sur un tournage aux États-Unis. L'acteur Alec Baldwin avait tué la directrice de la photo en manipulant un revolver chargé. Un accord financier a été trouvé entre l'acteur et la famille. Le tournage doit reprendre en janvier.
Nouvelle soirée foot à vivre ce soir sur Europe 1, troisième journée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain joue sur le terrain du Benfica Lisbonne.
Quelques 60 000 spectateurs seront dans les tribunes pour encourager leur équipe. Ambiance surchauffée, assurée, Cyril de la Morinerie.
Oui, exactement. Et nous y sommes dans cette magnifique enceinte Estadio Dalous, en français le stade de la lumière, avec beaucoup de rouge parce que ce sont les couleurs du Benfica, contrairement au Sporting, le grand rival qui lui arbore des couleurs vertes. Et effectivement, beaucoup de monde aperçu aux abords de cette enceinte parce qu'il y a une grande curiosité de voir ce Paris Saint-Germain là, et notamment Lionel Messi. Il y a pas mal de fans et de Lisboètes qui sont venus aux abords également de l'hôtel du Paris Saint-Germain cet après-midi à Lisbonne pour tenter d'apercevoir les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est un grand match ce soir de football parce que vous avez le Benfica qui domine son championnat. Paris domine également son championnat. Il y a de très grands joueurs, de grands talents, notamment beaucoup de jeunes joueurs en devenir ici du côté du Benfica. Et puis le Paris Saint-Germain avec ses trois stars qui a envie bien évidemment de continuer sa marche en Ligue des Champions et puis d'effacer ce souvenir amer. C'est ici que Paris avait perdu en finale de la Ligue des Champions, c'était en 2020 face au Bayern Munich.
Cyril de la Morinerie devant le stade du Benfica, coup d'envoi à 21h et c'est bien sûr à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
Le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, demandez le programme.
Un parcours dévoilé cet après-midi qui sera ouvert aux amateurs. Axel, mais il s'annonce très difficile et plein de symboles.
Oui, un départ de l'hôtel de ville, direction Versailles et retour dans la capitale avec une arrivée sur l'esplanade des Invalides en passant par des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel. 7 autres villes seront traversées, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Chaville, Meudon et ici les Moulineaux. Un parcours difficile avec deux belles montées et un parcours qui rend hommage aux femmes révolutionnaires, explique Jean-Philippe Gassien, directeur des sports de Paris 2024.
On retrace cette marche des femmes le 5 octobre 1789. Qui sont partis de l'hôtel de ville, qui sont allés chercher le roi à Versailles pour le ramener à Paris, pour réclamer du droit et des réformes et du pain, et qui a permis au roi Louis XVI de ratifier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc un parcours inspirant avec un vrai enjeu de société de renforcer la place des femmes qui nous tient particulièrement à cœur.
Symboliquement, les épreuves masculines et féminines du marathon vont pour la première fois de l'histoire des JO permuter pour que ce soit les femmes qui clôturent les Jeux le dimanche 11 août 2024. Ce week-end-là, des amateurs pourront également emprunter soit le parcours complet du marathon, soit un parcours réduit de 10 km. Environ 37 000 dossards sont à gagner en s'inscrivant sur le site internet des Jeux de Paris.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Raphaël ?
Je suis en train de m'inscrire, justement. Voilà.
Les marchés financiers avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
La fête est déjà finie, Paris repart à la baisse.
Oui, marché rattrapé par ses peurs après trois belles séances et même une séance euphorique hier avec un gain de plus de 4%. Le CAC 40 repère donc 0,9%, 5 985 points. Et la journée a été particulièrement compliquée pour l'automobile avec Michelin qui chute de 5% ou Faurecia en baisse de 7,7%. Retour à la réalité aussi sur les autres places en Europe. Londres perd 0,5%. Francfort, moins 1,2, Amsterdam, moins 0,8, moins 0,9 à Paris pour le CAC 40, 5 985 points.
Merci Claire Lemaître.
C'était la Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène, à demain.
À demain.
Et avec Marlène Duret, Marlène, des brouillards et de la fraîcheur pour débuter la journée demain.
Oui Raphaël, surtout dans le nord-ouest, pour la fraîcheur, couvrez-vous si vous partez aux aurores. Un temps gris donc, parfois brumeux. Pour qui ? Pour la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne, en continuant vers le Berry, la Bourgogne, une grande partie de la Lorraine et de l'Alsace. De la grisaille localisée également sur la côte méditerranéenne, en bord de Manche, sur la pointe sud de la Corse, on parle toujours du littoral. Et puis des petites ondées sont possibles sur le Roussillon.
Et l'après-midi, le soleil devient majoritaire.
Oui, il va gagner du terrain. Alors, on va retrouver quand même la trace de la perturbation arrivée aujourd'hui par la Bretagne. Alors, a perdu de son activité, évidemment. Trace nuageuse qui va alterner avec des éclaircies de l'Aquitaine à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace, en passant par le Limousin, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais. Et puis, sur le reste du pays, effectivement, le soleil l'emportera, Raphaël.
Alors, par rapport à aujourd'hui, les températures vont baisser, mais on reste quand même au-dessus des moyennes de saison.
Hein. Et oui, elles vont afficher le plus souvent 17 à 20 degrés sur la moitié nord, avec 17 à Rouen, 19 à Paris, 20 à Nantes, Reims, Mulhouse ou Dijon. Sur la moitié sud, comptez 21 à 25. Alors 21 à Limoges par exemple, 23 à Toulouse, 24 à Grenoble ou encore 25 à Nîmes.
C'est bien noté. Merci Marlène Duret. Prochain point météo à 23h sur Europa. On espère que cet hiver ne sera pas trop froid, ça pourrait nous coûter extrêmement cher. On va parler du plan de sobriété énergétique qui sera présenté demain par le gouvernement. Nos commentateurs ce soir, Jeannette Bougrabe, Anne-Charlotte Bézina et Alexis Karl Kleins Marchais. À tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h. Raphaël Delvolvé. Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
La deuxième partie d'Europe Soir, place aux commentaires. Maintenant avec nous ce soir, l'ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe, bonsoir. La politologue Anne-Charlène Bézina, bonsoir.
Bonsoir.
Et ouais, l'essayiste et dirigeant d'entreprise Alexis Karl Kleins Marchais, je l'ai bien prononcé.
Bravo, bonsoir Raphaël.
Bonsoir à vous et bienvenue dans Europe Soir. C'est une information Europe 1, on vous l'a dévoilée pendant le journal. Nos journalistes se sont procurés un document dévoilant le plan de sobriété du gouvernement. Il sera officiellement dévoilé demain après-midi par la Première ministre et plusieurs membres de son gouvernement. C'est une conférence de presse qui va durer 3 heures. Il pourrait y avoir des ajustements entre-temps. L'exécutif recommande, mais il ne contraint pas, il n'oblige pas à limiter le chauffage à 19 degrés, à limiter sa vitesse sur l'autoroute à 110 km/h au lieu de 130, à prendre le train plutôt que l'avion, à faire du télétravail, à faire ses machines en dehors des périodes de tension. Il y a beaucoup d'autres recommandations comme ça, il y en a une dizaine au total. Le risque de coupure est réel hein, cet hiver, c'est une crise. La commission de régulation de l'énergie le redit, même si nos stocks de gaz sont remplis. Et puis, je citerai également le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie. Il parle dans le journal Le Monde ce soir. Il évoque une crise inédite de par son ampleur. Face à cette urgence, faut-il recommander ou contraindre, Anne-Charlène Bézina ?
Alors, il y a un petit peu de tout dans ce plan. Parce que contraindre, ça marche pour les administrations publiques, notamment les services publics. Et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de distinguer finalement entre le service public en tant que tel, qui lui, du coup, démontre un petit peu l'exemplarité, et les particuliers pour lesquels c'est toujours mieux de commencer par l'incitation avant de contraindre. Donc, il y a une espèce de modularité en fonction des organismes qui s'organisent de la sorte. Est-ce qu'après, voilà, inciter ou contraindre, c'est toujours un peu le problème de l'environnement environnement en général et de tout ce qui touche à l'énergie et à l'avenir, c'est qu'en fait, on a reproché au droit de l'environnement d'être pendant très longtemps du pur vœu pieux, totalement incantatoire, etc. Et ensuite, on lui a reproché d'être trop punitif. Et on s'est dit, les Français n'arrivent pas à trouver le juste discours avec cela. Donc, c'est toujours compliqué, à mon avis, de contraindre en première intention. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que l'idée de la progressivité en la matière, elle pourra peut-être au moins jouer le jeu de l'opinion.
Jeannette Bougrabe.
Non, je ne sais pas. Tellement d'accord, parce que quand on parle du service public, on parle des usagers du service public. Et quand j'entends que des présidents d'université envisageaient déjà la fermeture d'université,
ça a été abandonné, ça.
Ça a été abandonné, mais que les écoles, certains maires dire qu'ils ne vont pas chauffer les écoles, pas avant telle date, qu'ils vont offrir des couvertures, enfin, des espèces de
doudounes.
On a distribué des polaires.
Est-ce que dans les hôpitaux, pour réduire des factures, on va en arriver à ça? Enfin, il y a un moment quand même, les questions, les mesures que vous faites, avant même l'annonce d'un plan de sobriété, c'est des mesures de bon sens. C'est ce qu'on appelle, qu'on habille sur les éco-gestes. Quand vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière. Et donc, ça paraît comme assez dérisoire pour cacher en réalité un échec d'une politique énergétique et industriel de ces 15 ou 20 dernières années. Voilà.
Voilà, Alexis Carclins-Marché, qu'est-ce qu'on fait dans cette période de crise, hein? C'est très sérieux. Quand il y avait une crise sanitaire, on a contraint pour le coup.
Oui,
hein?
Mais,
objectivement, inciter les consommateurs à faire preuve de sobriété est une bonne chose. Dans le principe, on voit que si l'administration veut montrer l'exemple, en baissant la température, en encourageant le télétravail, en encourageant le covoiturage. Moyen de chèque, hein. Le chèque est devenu presque maintenant un passage obligé. Les interventions fondées sur des chèques qui coûtent évidemment aux contribuables et des incitations. Je crois que le point est plus fondamental. Le vrai point, c'est que de toute façon, cette transition écologique que nous appelons de nos voeux et qui est absolument nécessaire, passe au fond par une entente entre les trois grands acteurs. Vous avez d'un côté l'État qui doit bien sûr montrer l'exemple, qui doit investir dans les infrastructures, notamment dans les énergies renouvelables, et éventuellement en montrant l'exemple dans ces administrations. Ça passe aussi par nous, les consommateurs, dans notre rapport, et comme on le disait, c'est beaucoup de bon sens, il faut faire preuve de sobriété, gâcher moins, faire attention à la façon dont nous consommons l'électricité, et ça, le rappeler, communiquer, parce qu'il y aura un grand plan de communication, aussi c'est bien. Mais ça passe aussi par les entreprises. Et on n'imagine pas, et on ne le rappelle pas assez, à quel point beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont engagées dans la transition écologique, font des efforts considérables pour réduire la consommation de carbone dans la production, pour réduire le temps de transport. Un certain nombre d'investissements qui sont réalisés pour justement accompagner cette transition.
Jeannette Bougrabe.
Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on doit dire, on est sans arrêt, c'est un peu comme au moment du Covid, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ça.
Ça avait commencé comme ça, avec des recommandations, ça a fini par le confinement.
C'est l'état nourri, c'est le nanny state, c'est-à-dire qu'on s'immisce, y compris dans les comportements individuels, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal. Donc en fait, c'est que c'est de l'incitation, mais en même temps, enfin, de faire fonctionner sa machine à laver à telle heure, on le faisait avant. Donc moi, je trouve que de faire des grandes messes médiatiques pour annoncer qu'il faut éteindre la lumière en sortant d'une pièce, alors que cette politique de la sobriété énergétique aura un coût financier très important, parce qu'en réalité, on subventionne le covoiturage. Donc elle aura un coût.
On poursuit notre conversation dans quelques instants sur Europe 1. Restez avec nous.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Notre passage en revue quotidien de l'actualité avec ce soir l'ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe, la politologue Anne-Charlène Bézina et l'essayiste et dirigeant d'entreprise Alexis Carclins-Marché. Demain, le gouvernement va dévoiler son plan de sobriété énergétique. Nous en parlions juste avant la pause. Il n'y avait pas besoin en fait de l'annoncer. Ça a fait déjà effet. Je voudrais qu'on écoute Olivier Rochefou. Il est président du département de Mayenne. Il a déjà son petit plan à lui.
Il y a 53 mesures, hein, comme le numéro de notre département. Certaines très simples, comme par exemple supprimer l'eau chaude dans les sanitaires, de faire en sorte que les recharges de tous nos appareillages électriques qui ont des batteries, on incite tous nos collaborateurs à ne les mettre en recharge qu'entre 15h et 17h, parce que c'est dans cette tranche horaire que le réseau électrique est le moins ponctionné. Et puis cette idée de considérer que le week-end, comme nous arrêtons le chauffage, eh bien dès le vendredi, nous anticiperons cet arrêt du chauffage en baissant déjà la température, en mettant un pullover un peu plus chaud, à l'image du Friday Wear qui existait à une époque où on pouvait arriver en tenue décontractée le vendredi au travail, et bien là on arrivera au travail le vendredi avec un pullover.
Jeannette Bougrab, vous n'avez pas de pilo vert dans votre,
dans votre
armoire, c'est pour ça que vous me levez les yeux au ciel.
Mais non, mais je suis affligée. Voilà. Je suis affligée. Enfin, je trouve qu'en réalité, on frise le ridicule. Voilà. Je suis assez sévère là-dessus parce que je trouve qu'il y a, une espèce de. Comment expliquer? Alors oui, alors du coup, il faut mettre des pullovers. Enfin,
Que le
vendredi. C'est-à-dire que être élu de la nation ou élu de, si c'est pour exprimer ce genre de choses, enfin, ça devient. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais même pas si ça mérite un commentaire. Voilà.
Désina.
Moi, je reçois.
Vous êtes plutôt col roulé ou pullover?
J'aime beaucoup les cols roulés, mais il faut vraiment savoir les porter.
Non, c'est une question très sérieuse.
Alors la question, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire, moi, je reçois l'idée de la responsabilisation des Français, c'est-à-dire se dire bon bah finalement parce que notamment dans l'opinion, parfois, ça a été très bien reçu. Je pense notamment à la période de crise Covid, où pas uniquement la France, mais l'Espagne, l'Allemagne, c'était lancé dans des grands plans de communication. Et à ce moment-là, on avait l'impression que c'était un besoin populaire. Après, la question, c'est à quel niveau de détail on descend. Et quand on voit que nos politiques ont le sentiment de faire de la politique en portant un col roulé, je me dis que c'est peut-être le niveau politique qui est vraiment un peu affligeant. Et c'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça de leur part, ou est-ce que l'exemplarité, elle n'est pas uniquement dans les mesures qu'ils doivent prendre et dans leur manière de gouverner, finalement?
Alexis Karchlin, sur le marché, il y a toujours un contraste énorme quand il y a ce genre de plan de sobriété énergétique, en l'occurrence. Si on demande aux gens, en général, allez-vous faire des économies, ils vont vous répondre oui. Si tant est qu'il y a un hiver extrêmement froid...
Il ne faut pas faire des économies parce que le prix de l'énergie a augmenté. Donc, en réalité, c'est pour... essayer de limiter,
les l'augmentation. Dépenses.
Un hiver extrêmement froid avec des températures négatives, j'en connais peu qui accepteront de rester chauffés à 19 voire 18 degrés.
Et évidemment. Et on voit bien la différence entre, d'un côté, la responsabilisation qui est nécessaire, mais qui nécessite aussi de parler aux citoyens de façon adulte et responsable. Et très vite, on tombe dans l'infantilisation. Quand on commence effectivement à parler des cols roulés, plutôt que de porter la cravate ou de mettre des doudounes ou d'utiliser des sèches-linges, enfin de ne plus utiliser des sèches-linges et plutôt utiliser des étendages, on en arrive à un niveau détail qui devient ridicule. Et donc, vraiment, je crois que un des grands sujets, c'est de trouver les bons moyens de communication de façon à encourager la responsabilisation. Mais il faut faire confiance. Il faut faire vraiment confiance aux citoyens. Alors, évidemment, quand on dit ça, il ne faut pas non plus oublier que notamment dans la jeune génération, et je le vois dans mon entreprise, j'ai beaucoup de jeunes qui nous mettent la pression. Ils font la pression sur l'employeur, sur justement ces gestes d'arrêter d'utiliser des gobelets à la machine à café plutôt d'utiliser des verres qu'on peut réutiliser, d'arrêter d'utiliser des verres d'eau et plutôt d'utiliser des gourdes qu'on peut utiliser dans le temps. Voilà. Il y a plein de petits gestes comme ça. Oui, et les jeunes nous mettent la pression.
Et je
crois qu'il faut aussi prendre en compte cette nouvelle génération on peut le regretter, on peut trouver que ça va trop loin, mais dans tous les cas, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est artisan, lorsqu'on est finalement au contact de cette génération qui est beaucoup plus attentive à la façon dont nous consommons, dont nous voyageons, eh bien, il y a des efforts qu'il va falloir faire. Mais encore une fois, dans la communication de la responsabilisation, oui, de l'infantilisation, non. Ça, c'est insupportable de prendre les citoyens pour des idiots.
Voilà, on aura ce plan, ce plan de sobriété énergétique demain dans l'après-midi. Hein. 9 ministres vont nous le présenter. Ça sera très détaillé, ça va durer 3 heures, ça va peut-être être un peu assommant. On va tout vous résumer, évidemment, demain soir sur Europe 1, vous inquiétez pas. Normalement, le gouvernement ne devrait pas vous dissuader de regarder la télévision, surtout d'écouter la radio. Donc voilà, on est rassurés. Au contraire, même les médias devraient être mis à contribution. Ils devront donner la météo de l'énergie, la météo de l'électricité.
C'est pas possible,
expliquer si on est en période de tension ou pas.
Non, mais c'est pas possible.
Enfin, ça sera à nous de dire allumer la machine à laver.
On était une puissance nucléaire, on avait notre indépendance énergétique, et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas été capable de faire cette transition, voilà, il y a quelques temps, il fallait fermer Fessenheim, et aujourd'hui, on en est à dire qu'il faut mettre des cols roulés et rester à la maison pour pas que l'État ait à payer des factures d'électricité ou de chauffage dans les bâtiments publics. Voilà.
Allez, on change de sujet, je vous invite, hein, si vous voulez voir le plan, hein, ce qu'on en sait déjà, à aller sur le site internet d'Europe 1 ou l'application, on a déjà pas mal d'informations. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui s'est passé à Paris ce matin aux aurores. Avant 7h, 1000 policiers et gendarmes ont démantelé un campement de consommateurs de crack dans le 19e arrondissement. 211 contrôles, 39 interpellations, plusieurs infractions relevées, consommation de stupéfiants évidemment, mais aussi à la législation sur les étrangers. Une arme a également été retrouvée. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place tout à l'heure. Il parle d'un moment important pour l'ordre public dans la capitale. Tiens, écoutons les riverains, les premiers concernés juste après ce démantèlement.
Bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Les riverains vont pouvoir souffler. Ils ont eu la peur du quotidien en traversant par cette porte de la Villette. Maintenant, ça va pouvoir être beaucoup plus sympathique, fluide.
On est soulagés. Les gens du 93 et les gens du 19e sont soulagés. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je pense qu'ils reviendront. Ça va se déplacer à un certain moment à Stalingrad et ils reviendront.
C'est évident qu'on a peur que ça se reforme. Là, on voit plein de toxicomanes aérés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle prise en charge? Il n'y a rien de prévu pour ces gens-là. Puis lundi, les dealers étaient déjà au courant qu'il y aurait une opération aujourd'hui. Donc, ils ont pris leur disposition. Donc, les dealers sont toujours dans la nature.
Voilà, ces riverains du parc Forceval dans le 19e arrondissement. Les opérations de police, ça va suffire? C'est toujours un peu le problème, même si cette fois-ci, c'est la première fois que j'entends le ministre de l'Intérieur l'évoquait, il va laisser le millier de policiers et gendarmes dans les environs pour éviter que le camp se reforme. Anne-Charlène Bézina.
Se reforme à l'endroit où il était, mais voilà.
Alors,
est-ce
800
que là
policiers
encore,
gendarmes dans le, dans le 19e et puis aux alentours, les 200.
Le problème en fait des opérations de maintien de l'ordre, c'est qu'elles sont pertinentes, mais quand on démantèle, on ne démantèle pas l'existence des consommateurs de crack et de l'illégalité absolue dans laquelle ils vivent et donc dans laquelle ils vont être tentés de se reformer. Parce que la question toujours de la bonne frontière dans la politique pénale, c'est la répression, oui, mais jusqu'où? Et encore une fois, c'est démantèlement. Ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là. Est-ce qu'il y aura du soin derrière? Est-ce qu'il y aura une garantie qu'on luttera efficacement contre l'idée de reformer même ces jungles-là? C'est des questions qui méritent, à mon avis, un petit peu plus que des effets d'annonce comme celle-là, même si elles sont heureuses. Et je pense en effet qu'il faut se féliciter du fait qu'on démantèle des camps de la sorte. Mais voilà, encore faut-il qu'on n'en recrée pas ailleurs et que la politique soit cette fois-ci vraiment sur une ligne de longueur.
Jeannette Bougrabe, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'un village de crack.
Ah oui,
l'expression n'est pas si mal choisie,
non,
parce qu'il y a vraiment une vie parallèle.
Il
y en a qui s'occupent de la sécurité, il y a beaucoup de prostitution également, il y a une vraie vie économique
malsaine. Il y a du vol, il y a du recel, vous avez des personnes dans un état sanitaire affreux en fait. Mais c'est pas nouveau en fait, les craqueurs.
Très contemporain.
Enfin, écoutez, j'ai été candidate il y a très très longtemps dans le 18e arrondissement par
Pestre-Fréchois.
Et donc, la question des craqueurs n'était pas du tout nouveau. Vous les trouviez, en fait, sur le boulevard Barbès, un caillou de crack, c'était 2 euros, ça crée une dépendance immédiate. Alors, c'était, et on les voyait arriver vers 17h, 16h, et les troubles à l'ordre public, parce que ce sont des polytoxicomanes qui sont en fin de parcours de toxicomanie. Les filles, pour pouvoir acheter leur dose, se prostituent, et les mecs vont faire du vol à l'arraché, du vol à la tire, et dans le pire des cas, vont tabasser ou agresser d'une manière tellement violente des personnes âgées pour récupérer 5 ou 6 euros juste pour acheter leur dose. C'est des séquelles qui sont neurologiques, qui sont irréversibles. Ces gens-là, si vous les laissez là, ils reviendront, ils iront trouver d'autres endroits, ils vont créer des troubles à l'ordre public ailleurs, sans prise en charge médicale, parce que c'est ça la réalité.
On
a démantelé, mais ils sont partis où ces personnes-là?
Alors, il y a eu 5 hospitalisations pour lesquelles elle est plus grave. Ouais. Alexis Carpin,
il faut peut-être aussi le rappeler pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas Paris, le 19e arrondissement, on est dans le quart nord-est de Paris et le square en question, là, cette fameuse colline du crack.
Voilà,
cette colline du crack, elle est le long du périphérique, mais elle est à, vraiment juste derrière la cité de la Villette, donc la cité de science et de l'industrie, derrière la Philharmonie aussi. Donc on est vraiment dans un espace qui a été finalement assez investi par le public pour essayer de donner...
C'est assez neuf, effectivement. Ces
collines du crack n'ont effectivement rien de nouveau. Vous avez passé quelques témoignages de riverains, mais ils font suite à d'autres témoignages qui sont absolument horrifiants. C'est absolument horrible ce qui se passe dans ces quartiers. Certains évoquent des violences alors quotidiennes, vos digicodes sont détruits, les portes sont détruites quasiment au quotidien. Certains riverains racontent qu'en prenant l'ascenseur dans leur immeuble, ils trouvent des gens qui sont en train de, consommer leur dose. Bref, vraiment des situations extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, à tel point qu'on a appelé ce quartier Zombieland. Voilà, vous voyez, Zombieland, donc la terre des zombies. Pour vous dire à quel point certains l'ont même appelé Mordor, c'est la terre des ténèbres dans le Seigneur des Anneaux. Donc ça, c'est une réalité. Et effectivement, le problème, c'est que ça n'est pas juste par l'ordre qu'on résout les problèmes. Mmh. Bien sûr, il y a un peu de communication politique derrière et on comprend l'objectif du gouvernement derrière cela, mais il faut avoir des moyens sanitaires, sociaux, psychologiques, parfois psychiatriques, vous l'avez rappelé. C'est un problème qui est extrêmement compliqué. Si vous voulez éviter que le même camp se reforme quelque part à quelques encablures, eh bien, vous devez aborder le sujet avec beaucoup de moyens. Et c'est là, vraiment, l'action concertée. C'est dans ce cas-là qu'on peut arriver à faire les choses. Il n'y a pas de fatalité, mais ça demande beaucoup de moyens. Et ça demande des moyens qui sont complexes. Et ça demande une volonté politique et vraiment un ensemble de mesures très, très complexes.
Alexis Karklins, marché que vous venez d'entendre, commente avec nous et Jeannette Bougrabe et Anne-Charlène Bézina, l'actualité du jour. Nous reprenons nos conversations dans quelques instants. Nous allons parler de nos institutions. Un certain Nicolas Sarkozy s'est exprimé aujourd'hui à l'Institut de France. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël
Delvolvé. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons écouter Nicolas Sarkozy. Mais Alexis Karklins-Marché voulait ajouter un petit commentaire sur ce dont nous parlions avant la pause. Ce camp de consommateurs de crack démantelé aujourd'hui dans Paris. Le crack, c'est le signe aussi d'une insécurité qui progresse en France.
Absolument.
Bien loin de la capitale Paris, d'ailleurs.
Et voilà. Et on parle beaucoup de la violence endémique. Et je voulais juste faire référence à deux statistiques qui sont sorties récemment. L'une qui parle du taux d'agression en Europe pays par pays, et la France fait partie avec la Belgique des pays aujourd'hui considérés comme les moins sûrs en termes de taux d'agression, et un deuxième classement qui est sorti sur le taux de criminalité dans les villes, dans 450 villes du monde. Alors vous avez Caracas qui est le pire au monde, et il se trouve que vous avez beaucoup de villes françaises qui sont plutôt mal classées désormais, notamment par exemple une ville comme Nantes qui est 47e sur 450, donc plutôt vraiment dans le haut de la criminalité, située par exemple entre Chicago et Bogota. Ouais. On a une ville comme Marseille, 66e, entre Guatemala et Tripoli en Libye. On a Nice, 88e, entre Brasilia et New Delhi. Voilà. Et donc quand on prend des villes, alors c'est mesuré, vous savez, sur le nombre de violences, le nombre d'agressions, les vols, etc., etc. Donc c'est un ensemble de critères. On peut toujours, bien sûr, contester la pertinence d'un indicateur, mais je crois que cela révèle ce sentiment entre guillemets, d'insécurité, n'est pas qu'un sentiment,
non, est
une réalité. Et aujourd'hui,
un sentiment d'insécurité, c'est déjà un problème.
Et c'est déjà un problème, sauf qu'aujourd'hui, il est fondé sur un certain nombre de réalités, et on le voit dans les villes françaises. Voilà, je voulais juste le souligner, cette histoire du crack est une indication, mais finalement, les problèmes sont plus larges et ne concernent pas que Paris.
Allez, on referme notre conversation sur l'insécurité. Je voudrais que nous écoutions maintenant Nicolas Sarkozy, toujours intéressant d'écouter un ancien président. Il était à l'Institut de France aujourd'hui pour parler précisément des institutions. Il a parlé du 49-3 que le gouvernement pourrait être contraint d'utiliser sur le budget, voire sur la réforme des retraites. Ça paraît d'autant plus probable qu'il n'a pas de majorité absolue. Écoutons.
J'ai beaucoup de pression pour utiliser le 49-3, notamment quand on a eu cette idée de passer la retraite de 60 à 62 ans. Je dis, si je l'utilise moi, ça serait une preuve de faiblesse. Je pense que l'opportunité de choisir ces mesures dépend de votre majorité et de l'analyse qu'en fait le président de la République. Nous avons eu 4 manifestations nationales, dont la dernière avec 3 millions de personnes dans la rue. Il n'y a pas eu une violence, pas un coup de bâton. Si j'avais mis le 49-3 et si j'avais contraint l'Assemblée à voter, je ne peux pas dire ce qui serait passé, mais je pense que je prenais un risque de violence. Car malgré tout, le débat à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, c'est un peu comme si vous voulez la vapeur dans la cocotte minute. Si vous laissez sortir un peu de vapeur, c'est mieux pour ne pas risquer l'explosion.
Jeannette Bougrabe, vous avez été membre de plusieurs gouvernements de Nicolas
oui,
Sarkozy.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un moment, mais j'étais avant-dernière au Europe protocolaire, donc je vais quand même le préciser. Donc,
mais c'est la vérité factuelle, hein, secrétaire d'État. C'est un peu facile quand même de dire non, donc c'est une facilité.
Il
avait la majorité à l'époque au Parlement.
Oui, mais il a été capable, ce que n'a pas été capable. Il a été capable de ce que Emmanuel Macron n'a pas su faire, par exemple la réforme de la Constitution. Emmanuel Macron, même quand il avait une majorité absolue, n'a pas réussi à réviser les institutions, notamment. Il était capable de prendre son téléphone et d'appeler chaque parlementaire pour les convaincre de la justesse de la réforme. C'était quelqu'un qui était au contact avec ses parlementaires et qui allait sur le terrain. Et à l'époque, il y avait des parlementaires qui étaient un peu plus aguerris, qui connaissaient les territoires, qui avaient de la bouteille, qui avaient de l'expérience, qui connaissaient la nécessité de la réforme. Et donc voilà, c'était un homme qui était au contact, donc il prenait son téléphone. Quoi qu'on dise de lui, il n'était pas cette espèce de président jupitérien. Il allait au combat, il mouillait la chemise, comme on dit de manière un peu populaire, pour défendre ses textes. Il menaçait.
Alors, c'est une preuve de faiblesse d'invoquer le 49-3.
C'est l'incapacité, en tout cas, à nouer un dialogue et accepter que de débattre. Alors, évidemment, il n'est pas aidé par l'opposition, le président Macron, quand on voit la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. Donc, j'imagine que c'est un peu difficile. Mais il était possible aussi de discuter en amont. Et donc, moi, je trouve que là-dessus, c'est un aveu de faiblesse.
Anne-Charlène Bézina, c'est vrai que
la physionomie de l'Assemblée nationale a beaucoup changé. La France insoumise, qu'évoquait Jeannette Bougrabe à l'instant, menace, va probablement déposer, accrochez-vous, 75 000 amendements sur la réforme des retraites. Heureusement qu'il y a le 49-3 quand même.
Le 49-3, il est paradoxal parce qu'à la fois, il est très mal vu. C'est vraiment la bête noire de la Ve République. Et à la fois, c'est peut-être aussi celui qui a permis de consolider ce qu'on appelle aujourd'hui le fait majoritaire. Et cette idée notamment que, eh bien, une majorité à l'Assemblée nationale, qui est la Chambre basse, eh bien, puisse au moins diriger son action. Moi, je suis un petit peu choquée d'entendre des présidents de la République parler du 49-3 parce que ça a été François Hollande également qui a emboîté le pas à Nicolas Sarkozy
il
dans cette
même... France aujourd'hui.
Également. Journée à l'Institut. Et c'est une arme primo-ministérielle et gouvernementale. Ça, ne faut pas l'oublier. Et notamment parce que le Premier ministre et le gouvernement sont quand même censés être les plaques tournantes entre l'Assemblée et le Président. Donc, c'est à eux de sentir aussi lorsque le débat est devenu impossible. Et comme vous le disiez, l'amendement, ça peut parfois tourner à l'obstruction. Et ce 49-3 est censé être une arme de destruction massive. C'est comme ça qu'en parlait Jean Jiquel, professeur de droit constitutionnel à Paris.
De destruction.
De destruction, en effet. C'est un peu la grosse Bertha. Il en parlait comme ça, notamment parce que c'est vrai que c'est un peu l'arme ultime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut la dégainer qu'à partir du moment où vous sentez vraiment que la discussion n'est non seulement plus productive, mais qu'elle ne servira à rien. Et c'est pas anodin que la dernière fois qu'on l'ait utilisé, notamment sous le quinquennat de François Hollande, ça soit pour discipliner au sein de la majorité, puisqu'il y avait les frondeurs qui eux-mêmes ne votaient plus avec la majorité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec une majorité courte, ce 49-3 se justifie ou non ? Il y a quelque chose de très intéressant, et je terminerai par là, c'est que l'opinion, aujourd'hui, n'est plus du tout favorable au 49-3. Donc on ne joue plus vraiment le jeu parlementaire du 49-3 avec son opposition et sa majorité dans le Sénat de l'Assemblée, on le joue dans les médias avec la légitimité. Et donc c'est pour ça qu'on entend de plus en plus nos membres du gouvernement préparer un petit peu le terrain en disant bah, « on y sera contraint » parce qu'en fait finalement c'est devenu une bataille d'opinion ce 49-3.
Rappelons que Nicolas Sarkozy est le dernier président à avoir modifié la Constitution et notamment... encadrer l'usage du 49-3, hein. On n'a le droit de l'utiliser qu'une seule fois lors d'une session ordinaire à souhait sur des questions budgétaires.
Il est très respectueux de la démocratie parlementaire. Voilà, c'est un peu ça. En fait.
Alexis Karklins-Marché.
Je crois que c'est effectivement un sujet sensible parce que bon, nos institutions permettent ce 49-3 et ce 49-3...
Et il est très probable qu'il revienne à l'ordre du jour.
Quand vous n'avez pas la majorité au Parlement, c'est une arme et les défenseurs du 49-3 mettent en avant le fait que c'est une façon de lutter contre l'immobilisme et de pouvoir agir politiquement quand vous n'avez pas une majorité. Bon, ça, c'est l'argument des défenseurs. Il y a une réalité qui est une réalité politique, c'est que l'acceptation, et Anne-Charlène l'a rappelé et elle a tout à fait raison, l'acceptation politique aujourd'hui du 49-3 et serait très faible. Et donc, et d'ailleurs, le président Sarkozy l'a rappelé en évoquant l'analyse du coût et du risque que vous prenez en actionnant l'arme du 49-3, quand vous n'avez justement pas cette majorité, il y a un risque, un vrai risque de donner l'impression de passer en force. Il y a aussi une façon de, finalement, d'insister sur la capacité à vraiment essayer d'avancer le plus vite possible. Et finalement, c'est un peu derrière cette arme de l'immobilisme, on a l'impression que ça va contre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une forme d'aller, c'est presque aller contre un message qui a été envoyé depuis le début, qui dit « Eh bien, nous allons devoir apprendre le compromis, la concertation, la façon de travailler ensemble. » Alors évidemment, quand on dit qu'il y a 75 000 amendements derrière, on se dit « Comment peut-on trouver des compromis ?» La réalité, c'est que la culture...
Même avec les syndicats, vous voyez la relation ambiguë qu'il a avec Laurent Berger, qui est quand même quelqu'un un réformateur, ouvert. Même avec le Conseil national, il a du mal, en fait. Voilà. Il a du mal à accepter les corps intermédiaires.
Absolument. Et donc cette culture, si je crois qu'on doit avoir un regret, si on imagine aller vers le 49-3, c'est le regret de cette culture du compromis qu'on espérait pouvoir émerger d'un Parlement où justement il n'y a pas de majorité absolue, même majorité relative. Et avec un 49-3, on s'en éloignerait. Donc, d'un point de vue politique, le message envoyé n'est pas très favorable.
De la culture du compromis et de la culture de l'opposition, qui est quelque chose qu'on sous-estime en France. Mais c'est vrai que notre opposition ne sait pas être une opposition constructive. Alors maintenant, ça fait partie du vocabulaire du RN. Mais encore une fois, eux n'ont pas démontré non plus leur force de proposition. Or, une opposition, si c'est autre chose que 5000 amendements et que c'est apporter des choses en commission, etc., normalement, on devrait pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est vrai que ce 49-3, c'est toujours un peu un aveu d'échec du compromis parlementaire, et il y a beaucoup d'autres démocraties qui savent faire mieux que nous. Oui.
Allez, il nous reste une toute petite minute. Je voulais juste vous faire réagir très rapidement, s'il vous plaît, à ces actrices françaises, Juliette Binoche, Julie Gayet, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg,
Angèle, il y a également une eurodéputée suédoise d'origine irakienne. Elles se sont toutes coupées les cheveux aujourd'hui en solidarité avec les femmes iraniennes qui demandent à enlever leur voile au péril de leur vie depuis des semaines maintenant.
Depuis le début de la mort de Mahsa Amini, il y a une centaine de personnes qui ont été tuées. Vous voyez des petites jeunes filles qui manifestent en tout cas pour la liberté. Elles sont battues, elles sont frappées. Et j'ai juste un mot pour Nika Shakari, qui avait 17 ans, qui est allée manifester, qui a été kidnappée par la police, qui a été rendue avec le crâne défoncé et le nez défoncé juste pour avoir le droit de ne pas porter ce voile.
Voilà. Et les actrices françaises ?
Les actrices françaises, c'était un peu particulier, mais c'est le geste
c'était
qui compte.
Vrai. C'était
moins risqué de se couper les cheveux à Paris qu'en Iran, en tout cas. Voilà,
non, moi, toutes les...
Mais c'est bien
et
de soutenir.
Les problèmes,
mais c'est important parce que regardez le temps qu'on consacre à l'Iran. Il se passe quelque chose d'exceptionnel.
Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui, à chaque fois, il y a des manifestations. Et que font les Occidentaux ? Vous savez, ils ont demandé que Elon Musk bouge son satellite pour avoir l'accès à Internet. Aujourd'hui, les Occidentaux pourraient soutenir quelque chose qui contribuerait à faire venir la démocratie, mettre fin à la tyrannie d'Ebola. Et on ne fait rien. Et on voit ces petites jeunes filles, ces garçons, ces jeunes hommes dans les universités qui ont été encerclés par la police. On leur a tiré dessus à balles réelles. Et qu'est-ce qu'on fait, nous ? Eh bien, on parle qu'il faut mettre des cols roulés. Donc voilà, c'est un peu ça qui paraît des fois un peu dérisoire et qui me met
On parle d'au moins 92 morts dans la répression. Merci Jeannette Bougrab, merci Anne-Charlène Bézina, merci Alexis Karl-Klins Marchais. Dans quelques instants, votre soirée sport. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.